Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Guillaume Dard, bonjour.
Bonjour.
Président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Jean-Marc Daniel, bienvenue.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'Écho avec à la une du numéro de février. Crise du logement, à quand la fin des travaux? C'est le numéro du mois de février de Pour l'Écho. Et je vous rappelle le hors-série, 40 idées reçues démontées par les chiffres, hors-série qui sort tous les 3 mois, je crois.
Absolument.
Voilà. Et bonjour, Christian Parizeau.
Bonjour.
Économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Je vous donne quelques chiffres, Guillaume, je vous laisse réagir. Les contrôleurs, les agents SNCF ont obtenu 400 euros de prime de la valeur pour le mois de mars. Prime de partage de la valeur. Après 400 euros au mois de décembre, l'indemnité de résidence quand ils vivent dans des zones où le loyer ou le logement est tendu augmente de 30 à 50% avec un minimum de 100 euros. Il y a eu 3000 promotions, 1000 embauches, dont 200 contrôleurs. Et actuellement, les rémunérations ont augmenté de 20% l'espace de 3 ans quand l'inflation fait 13,5%. Est-ce que la grève qui va nous tomber dessus ce week-end est justifiée?
Alors, je vais un peu essayer d'élever le débat.
Ah ben, élever le débat. Moi, je suis très terre à terre. Hein.
Mais et vous le faites bien.
Ah ben, voilà.
Train
ou pas train?
Voilà. Bon. Le sujet, je m'en tiens, il est très complexe. Parce que pendant les 100 premières années, grosso modo, de 1830 à 1930, la nationalisation de la SNCF, c'est 1938. Les chemins de fer, ils appartenaient à des compagnies privées.
Oui, absolument.
Et l'État intervenait dans les réglementations. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'est qu'il n'y ait pas 3 lignes de chemin de fer en parallèle les unes les autres. Donc, il a essayé de réguler. Et la voiture, ça n'avait pas encore vraiment, ce n'était pas un moyen de masse. Et donc, le chemin de fer était un business qui fonctionnait à peu près. Néanmoins, dès le début du XXe siècle, ça a été plus difficile en termes de rentabilité. Et en France, mais il n'y a pas eu vraiment qu'en France, on a fini par nationaliser les chemins de fer en 1938 et c'était une concentration des luttes sociales. J'ai pas besoin de vous redécrire le film La Bête humaine de Jean Gabin. Et donc, ça a été un moyen de dire, de montrer la souffrance. Bon, aujourd'hui, évidemment, on a moins de trains qui fonctionnent au charbon. Ce serait pas très correct en transition climatique. Et donc, on est face à un système nationalisé. Et le transport, c'est l'endroit des luttes sociales, très traditionnellement. On n'a pas besoin non plus de rappeler 1995 et la phrase de Chirac, on essaye de bouger les choses, il bloque tout. Donc c'est un lieu très complexe. Alors, je vais laisser Jean-Marc après parler de la privatisation. Donc on est
face. Il a déjà compris ce que Jean-Marc allait dire.
On est face à un système où on a d'ailleurs distingué, comme dans d'autres domaines, la propriété des infrastructures et les compagnies qui utilisent les infrastructures.
L'activité commerciale et l'activité infrastructure.
On ne peut pas dire qu'il y a un enthousiasme inouï des cheminots face à l'idée qu'il y ait de la concurrence. Alors, elle commence, elle sera, comme toujours, elle sera vertueuse, mais il y a quand même beaucoup moyens de blocage parce que il y a quand même une certaine proximité entre ceux qui gèrent les infrastructures et ceux qui gèrent les moyens de transport eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que donc je n'ai pas vraiment répondu à votre question.
C'est ce que j'allais vous dire, mais bon.
Mais quand même, ça peut être un signal parce que ça part toujours de là, de. Et puisqu'on en parle à longueur d'émission, il y a une demande d'augmentation du salaire net dans ce pays qui est très forte. Le salaire net, là aussi, ça fait 15 ans qu'on le dit, il est très bas en moyenne parce que les charges sont très très fortes. Si vous prenez le salaire brut, 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 c'est-à-dire le prix auquel le travailleur vend sa force de travail, il est assez élevé en France. Simplement, son net est trop faible. Donc, est-ce que c'est un signal d'un printemps social qui pourrait s'étendre, puisqu'on voit bien que, vous avez vu les sondages hier, 73% des Français veulent être augmentés.
Après, moi, effectivement, la question que je posais, c'était par rapport à la grève qui nous pompe même pas au nez. Elle a lieu, la grève, c'est sûr. Le patron de SNCF Voyageurs disait ce matin sur BFM TV, on espère qu'on aura un train sur deux. Donc c'est même pas certain.
Toute position, toute personne en position de monopole a tendance à
l'utiliser. Oui, et puis de toute façon, même si la concurrence, c'est vrai, s'est installée entre Paris et Lyon avec Trenitalia, la Renfe commence à grignoter quelques lignes vers Lyon et vers Marseille, mais c'est une concurrence limitée et on n'aura pas une concurrence...
Et qu'on ne redise pas l'Angleterre, ça ne marche pas, parce que c'est, rien n'est parfait dans aucun système de chemin de fer, mais enfin, si vous avez pris le train en Angleterre, ça marche plutôt pas mal.
On n'aura jamais 25 compagnies en concurrence face à la SNCF sur le territoire français, c'est évident.
L'exemple anglais, utilisé à longueur,
mais à longueur de journée, mais
me semble fallacieux.
Je ne sais pas s'il est fallacieux, mais ils ont fait machine arrière.
Vous avez pris le train en Angleterre ?
Oui, c'est catastrophique.
Comment ça ?
Ah ben, j'ai pris le train il y a quelques années.
En quelle année ?
J'ai pris le train en Angleterre, il doit y avoir 5 ans que ça a dû se produire, un peu moins même. C'est pas effectivement très très brillant. Objectivement, c'est pas très très bien. Quand vous voulez prendre des trains de banlieue qui partent de la ville de Londres pour vous rendre, c'est pas...
Il y a des gens, regardez le nombre de gens qui prennent le train tous les jours.
Je vais pas faire la comparaison avec la Grande-Bretagne. Jean-Marc, c'est justifié ou pas de se mettre en grève, considérant que la liste d'éléments que je viens de citer n'est pas suffisante?
Oui, alors, juste une remarque préliminaire. Moi aussi, j'ai pris le train en Grande-Bretagne, mais dans les années 70. Oui,
les gens... Je l'ai pris pas mal dans les années 80, fin 80, 90.
Quand il était public, oui. Je pense que les gens qui critiquent le système britannique sont des gens jeunes qui n'ont pas connu le système des années
60. Parlons du système français.
Et donc, le seul moment où les trains partaient à l'heure, c'est quand il y avait des matchs de foot, parce que le conducteur voulait être sûr d'être devant son poste de télévision au moment où commençait le match. Et il partait même en avance. Il y avait des gens qui loupaient le train parce que le train partait à l'avance. Donc, cette anecdote étant racontée, je pense que dans ce qui se passe, effectivement, vous avez d'abord une entreprise où on parle de gréviculture et tout ça.
À nouveau.
Vous avez donc la statistique que je rappelais tout à l'heure, dit que en France, par salarié, on perd 0,1 journée par an du fait des grèves. À la SNCF, c'est une journée. C'est-à-dire que les employés de la SNCF sont 10 fois plus en grève que la moyenne nationale. Donc il y a un vrai problème dans cette entreprise. C'est-à-dire que le problème, c'est à la fois le sentiment d'une forme d'impunité quand on se met en grève, et puis le sentiment qu'il y a quand même un malaise. Et je pense que ce qui se passe en ce moment est une réponse syndicale traditionnelle. On voit les syndicalistes, on voit les qui viennent nous dire, il faut embaucher, il faut augmenter les salaires. Quand vous écoutez les contrôleurs, vous apercevez que de même que les enseignants, leur problème c'est de moins en moins le fait d'être mal payé. C'est de plus en plus le fait d'être agressé dans les trains.
Pas dans les TGV, hein. Il y a pas de...
Écoutez, il y a eu...
C'est pas quelque chose qui remonte des contrôleurs de TGV qui aujourd'hui sont les mieux payés.
Vous prenez
le reste du réseau, là oui.
Vous prenez les gens qui font les TER et les intercités.
Oui, non, mais c'est autre chose.
Vous les écoutez. Il y a eu plus de 5000 agressions l'année dernière, près de 6000 agressions. Il y a eu 900 contrôleurs qui ont été obligés qui ont eu droit à un arrêt de travail à la suite d'agressions. Et quand vous les écoutez, pas les responsables syndicaux, le contrôleur de base, il dit bien que, de plus en plus, quand il rentre dans le train, il a peur. Et donc, je pense que c'est la même chose pour les enseignants. Quand les enseignants se sont mis en grève la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il y avait des revendications traditionnelles, et puis, il y en a qui ont dit, écoutez, on n'est pas respecté par nos autorités, mais on n'est pas respecté par les parents, on n'est pas respecté par les élèves. Et donc,
d'accord.
Je crois, il y a un problème qui est un problème de...
De sécurité.
De sécurité, de réhabilitation du statut de ces agents sous la forme d'une forme de respect minimum. Et donc, je pense qu'une des réponses, ce sera pas forcément des salaires, mais la prise en compte des éléments dans la qualité du travail. Je pense que l'enjeu de plus en plus dans la société dans laquelle nous sommes, c'est la qualité et les modes de fonctionnement du travail, plus encore que la rémunération du travail en tant que telle.
Vous avez vu dans l'enquête des conseillers du commerce extérieur sur l'attractivité de la France, la nouveauté qu'on n'avait jamais vue, c'est que l'item qui se dégradait le plus, c'était la sûreté aux personnes.
Oui.
Quand on est en Asie notamment, et quand on regarde la France, les médias ont probablement une part de responsabilité, la sûreté aux personnes commence à inquiéter. Oui. Généralement, on parlait du coût du travail, on parlait du code du travail, c'est plus ça.
Hein. Les attaques de tourisme à l'entrée du tunnel qui vient de l'autoroute du Nord vers Paris se multiplient de nouveau.
Sur ce que vous dites, il y avait 1000 embauches prévues, dont 200 contrôleurs, et on a ajouté 100 embauches d'agents de sécurité. Donc c'est un sujet qui a été un peu entendu, mais les principales revendications, ça ne porte pas sur les agents de la sécurité.
Non,
la prise en compte...
c'est la revendication exprimée par les syndicats.
Oui, oui, oui.
Moi, je vous dis, il y a un collectif, les syndicats relaient un collectif, vous dites ce que pense ce collectif. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que les syndicats, mais c'est la même chose pour les enseignants, les syndicats sont incapables de formuler les véritables attentes des gens qui sont supposés représenter. Ils répondent par le message traditionnel, plus d'emplois, plus de rémunération. Or, c'est pas ce qu'attendent les agents sur le terrain. Et toute dernière remarque, nous sommes pour le 6e anniversaire du rapport Spinetta. Il a été publié le 15 février 2010.
Oui, vous le rappeliez ce matin, je vais le ressortir d'ailleurs
et
pour
donc,
voir.
J'invite les auditeurs téléspectateurs à relire ce rapport. Ça commence par une citation de Raoul Dautry, donc, qui a été à la fois un grand gestionnaire de réseau de chemin de fer à l'époque où c'était privé, puis ensuite qui a été le fondateur d'Air France, et qui dit bien qu'un des problèmes, il dit dans la citation, qu'il y a un... Les chemins de fer doivent penser en termes de concurrence. Concurrence entre compagnies et concurrence entre modalités de transport. Mmh. Et que si les chemins de fer n'arrivent pas à se raisonner en termes de concurrence, eh bien, ils vont vers de graves crises. Et donc, je crois que les chemins de fer doivent surtout se raisonner en termes de concurrence. Concurrence entre compagnies ferroviaires et concurrence entre modalités de transport. On a, par rapport à la période de Raoul Dautry, on a mis des autobus avec la loi Macron sur les autoroutes. Par rapport à cette période-là, question s'est posée sur les avions.
Une chance formidable à SNCF, c'est que le transport aérien s'est effondré en termes de qualité et que donc un TGV, c'est plutôt mieux que de prendre du... dirais pas le nom de la compagnie, la compagnie low-cost utilisée en France, dont le service est assez médiocre.
Il y a des endroits, compte tenu des contraintes physiques, où installer de la concurrence est plus facile qu'ailleurs. Sur la route ou dans les airs, c'est plus simple que sur des sillons métalliques.
Mais justement, ce que dit Raoul Dautry, c'est ce qu'il dit bien, c'est que la concurrence, c'est pas uniquement la concurrence entre compagnies de chemin de fer. Et c'était un des acquis de la loi Macron, c'est quand on a mis des bus sur les autoroutes, c'était pour généraliser la concurrence. Je rappelle aussi, encore une fois, que Air Inter était propriété de la SNCF pour qu'il n'y ait pas de concurrence aérienne à la SNCF, et il était interdit de mettre des bus sur les autoroutes pour qu'il n'y ait pas de concurrence à la SNCF. Et donc là, la SNCF va devoir s'adapter à une double concurrence, la concurrence d'autres compagnies ferroviaires et la concurrence d'autres modalités de transport. Et ça, c'est une bonne chose. C'est la concurrence qui portera à la SNCF les solutions dont elle a besoin.
La clientèle des bus et la clientèle des TGV, c'est juste pas du tout la même.
Des TER et des intercités...
Ouais, mais alors, les liaisons de bus qui concurrence les TER, elles ne me sautent pas aux yeux, objectivement.
Pourtant, quand vous regardez la fréquentation, vous apercevez que...
Vous avez vu beaucoup de lignes de TER où vous avez une ligne de bus qui est là pour faire concurrence aux TER?
Mais la plupart des grandes... Les relations de bus, que ce soit Blablacar, qui était l'ancienne...
Non, mais c'est autre chose, Blablacar.
Mais non, il y a des bus Blablacar qui étaient les bus de la SNCF.
Oui, ça n'a pas duré longtemps.
Mais la SNCF a abandonné, mais Blablacar et Blablacar gagnent de l'argent en concurrençant immédiatement les lignes de chemin de fer.
Vous voulez réagir là-dessus ou on avance sur Parizeau?
Non, juste dire un petit mot, moi.
Parce que vous m'élevez le débat, mais moi je le mets très très bas, le débat.
Non, mais je tiendrai surtout un élément, c'est que c'est plutôt un signal que quand même il y a une vraie pression salariale aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on regarde, même au niveau de l'Europe, il n'y a pas que la France où il y a des grèves de train. Je vous rappelle qu'il y a eu des grèves récemment en Allemagne aussi.
Oui, une grosse grève.
Que la dernière statistique d'emploi en Angleterre a montré qu'il y avait un nombre de jours record perdus à cause des grèves dans le système hospitalier anglais sur le mois passé. Donc on voit qu'il y a quand même une montée des revendications salariales et c'est assez logique. C'est-à-dire que les ménages européens ont subi de plein fouet l'inflation. Il n'y a pas eu d'ajustement des salaires à l'inflation et c'est maintenant qu'on commence à voir les vraies revendications. Donc alors après, je veux pas être méchant, mais on comprend un peu pourquoi les banquiers centraux sont très prudents, parce que quand ils parlent de risque de boucle prix salaire, parce que c'est vrai que c'est avec beaucoup de retard, mais on commence à avoir véritablement aujourd'hui un risque de hausse des salaires beaucoup plus rapide que l'inflation. L'inflation ralentit, certes, mais c'est aujourd'hui que les gens revendiquent le plus. Et je trouve que ces revendications qu'on voit à travers la SNCF, c'est quand même un signal très fort au niveau social. Et encore une fois, entre les agriculteurs, entre les grèves dans les transports, entre tout ça, on voit que c'est quand même une revendication qui touche pas que la France et qui s'inscrit globalement sur un impact très fort de l'inflation qu'on voit aujourd'hui.
C'est un bon sujet, savoir si le mot salaire sera le mot de l'année en Europe.
En tout cas, ça explique pourquoi aujourd'hui on a quand même un vrai problème social et on voit que cette inflation est peut-être finie dans les chiffres. En tout cas, elle est en train de rapidement retourner, mais on voit que dans les mentalités, c'est maintenant qu'on a le choc inflationniste, et c'est là qu'on voit qu'il y a la perception de perte de pouvoir d'achat qui joue à plein aujourd'hui.
D'ailleurs, vous avez vu le chiffre de la DARES qui nous a indiqué qu'en 2023, les salaires avaient augmenté en France plus vite que l'inflation, finalement.
Oui, mais c'est pas perçu comme ça.
Mais non, mais non, bien sûr que c'est pas perçu.
C'est là que c'est intéressant. Il y a aucun problème. On voit qu'il y a toujours un décalage de temps entre la perception des choses et la réalité des chiffres.
Non, juste Jean-Marc, Ali Daniel. Je maintiens ce que je disais. Je pense que quand vous regardez les revendications du NHS dont on vient de parler, c'était là aussi, c'était le fait qu'on est agressé maintenant dans les hôpitaux, aux urgences. C'était le fait qu'ils ne sont pas pris en considération. C'était le fait que les médecins sont menacés dans leur vie quotidienne. Je pense que la vision traditionnelle qui consiste à dire les gens ont besoin davantage de salaire, c'est passé à côté du problème. Et que on n'éteindra pas cette forme d'angoisse et de revendication uniquement en augmentant les salaires.
À mon avis, c'est ce que vous dites, est très certainement parfaitement renseigné. La question du salaire aussi. Enfin, j'ai vu, je ne sais plus qui a fait cette enquête cette semaine, où la préoccupation numéro un, c'est quand même le salaire. Voilà. C'est ce qui ressortait en premier de cette enquête IFOP, je crois, qui a été menée, mais je ne sais plus pour qui. Vous vouliez rajouter, Guillaume Dard. Le chômage. Le chômage remonte. Alors, est-ce qu'il y en a un qui croit au 5% 2027?
Il y en a un qui ne croit pas.
En 2027. Qui croit au 5% de chômage, ce qui est actuellement pour le gouvernement considéré comme le plein emploi à la française, on va dire.
Jean-Marc nous dira exactement où on est positionné dans le cycle économique. Alors, parce que 24, 25, 20, enfin, d'ailleurs, sur 27, c'est important parce que ce sera l'année électorale.
Oui, bah oui,
et
c'est
donc,
pour. Oui.
Y a une statistique qui est très forte. Le parti au pouvoir, entre guillemets, gagne les élections si le chômage baisse ou dans les 12 derniers mois. Et, enfin, en tout cas, les pairs, assurément,
si le chômage
remonte. C'est ce qui s'était passé pour Lionel Jospin, qui avait eu la chance de connaître des années économiques glorieuses dans le cadre de la conjoncture internationale et dans la conjoncture française. Et ça s'est renversé en 2002, très rapidement, très rapidement, et il a perdu. Et donc, ce sera un enjeu clé. Moi, je pense qu'on va avoir une remontée du chômage dans les deux années à venir, parce que il y a un consensus chez vos amis économistes qui disent que, par exemple, il faut supprimer l'apprentissage des bacs plus 3.
C'est pas un consensus, c'est une question qui est posée.
Quasiment un consensus. Alors, ça me semble aller un peu dans votre théorie de la smicartisation. C'est-à-dire que si vous avez fait des études, vous allez trouver un job, c'est pas si vrai. C'est pas si vrai. Il y a tellement maintenant de gens qui ont bac plus 3 à bac plus 5 que le combat pour avoir un bon job, il est aussi fort qu'ailleurs. Et donc l'apprentissage dans cette zone-là, il est un point clé. Mais si jamais on enlève ce type de mesures, vous allez avoir une remontée du chômage. Si on ne règle pas tous les sujets de la construction, là, bien évidemment, il y aura un effet en chaîne. Et troisièmement, si la Banque Centrale Européenne ne redétend pas sa politique monétaire rapidement, on va avoir une année 24-25 qui seront assez médiocres. Alors après 26-27, c'est une autre histoire.
On peut avoir un débat pour savoir s'il faut réduire le champ de l'apprentissage. Ce débat, il a été posé par un rapport qui a été réalisé par Bruno Coquet au mois de juin sur le fait que ça avait coûté quand même énormément d'argent et qu'on pouvait peut-être obtenir des résultats assez proches en dépensant moins. C'est plus d'ailleurs un débat d'économie budgétaire que de volonté d'exclure telle ou telle catégorie de l'apprentissage.
Moi, je dirais qu'il y a surtout un élément à regarder maintenant, c'est est-ce que la croissance va être aussi riche en emploi ou l'absence de croissance que par le passé? Parce que là, on est quand même sur une période, on sort d'une période assez exceptionnelle où on a eu d'importantes créations d'emplois. Maintenant, on est sur une économie qui stagne, mais on n'est pas sur des ajustements d'effectifs. Et donc, aujourd'hui, on est quand même sur une vraie résilience de l'emploi. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on a fait une parenthèse dans les relations passées? C'est-à-dire qu'avant, il nous fallait véritablement une croissance forte en France pour véritablement avoir des créations d'emplois et permettre enfin une diminution du taux de chômage. Ou est-ce qu'on est sur des changements de mécanismes qui fait qu'aujourd'hui, avec une très faible croissance, on peut très vite augmenter les effectifs, très vite avoir un impact sur l'emploi et permettre une décrue rapide du taux de chômage. Et là, aujourd'hui, ce qui semble voir vers les dernières statistiques, c'est que quand même, on est en train de fermer cette parenthèse.
J'ai l'impression.
Le post-Covid. C'est-à-dire que vous vous souvenez, au moment du Covid, on a dit les entreprises européennes vont garder leurs équipes parce que sinon vous avez une destruction de connaissances, de know-how, de fonctionnement.
Oui, mais
les Américains, comme d'habitude, ne l'ont pas fait. Les Américains ont licencié massivement pendant la période de Covid et ont réengagé à une vitesse absolument incroyable. Donc je pense que le Covid qui a été vécu à la française, c'est-à-dire avec une atténuation, avec le quoi qu'il en coûte d'un côté, la volonté des entreprises d'être bonnes citoyennes, ont fait qu'il y a eu...
Une parenthèse.
Parfaitement
mais non, mais c'est une parenthèse.
C'est une parenthèse.
Mais c'est certainement
et
ça.
Et qu'une partie de la baisse de productivité, elle s'explique de cette façon-là.
On marque une pause. On a fait plus 6% en nombre d'emplois créés pendant en 4 ans, quand l'activité faisait plus 2. Donc il y a eu effectivement un phénomène. On va poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour durcir à nouveau les conditions de l'assurance chômage? C'est à peu près la seule piste actuellement évoquée par l'exécutif. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.